VOA Afrique, les infos. À Washington.
Bonsoir l'Afrique, Morgane Guériec au micro. Dans quelques instants, Sahel Plus avec Claire Morin-Gibourg. Mais d'abord, le journal. Le Nigeria n'a pas besoin d'aide militaire de l'ONU. Une invitation à la non-ingérence lancée aujourd'hui par Goodluck Jonathan au sein même des Nations Unies. Jonathan demande plutôt une aide humanitaire et sociale pour faire face aux problèmes de Boko Haram. On fait le point avec Claire Morin-Gibourg.
Les Nations Unies feraient mieux de se concentrer sur l'aide humanitaire et la reconstruction sociale du Nigeria. Nous n'avons pas besoin de leur aide militaire. C'est la déclaration choc de Goodluck Jonathan, le président du Nigeria, qui remettra les rênes du pouvoir à Muhammadu Buhari le 28 mai prochain. S'exprimant après avoir reçu jeudi les représentants de l'ONU pour l'Afrique de l'Ouest et centrale, le président Jonathan a affirmé que les forces armées nigérianes, avec l'aide de celles du Tchad, du Niger et du Cameroun, étaient en passe de reprendre les territoires de Boko Haram dans les provinces de Borno, d'Adamawa et de Yobe, situées dans le nord-est du pays. Selon le chef de l'État sortant, l'armée nigériane a entamé l'ultime offensive pour reprendre le dernier refuge des insurgés dans la forêt de Sambisa, dans l'État de Borno. C'est dans cette région que pourraient être retenus les quelques 200 adolescentes enlevées il y a un an à Chibok par les islamistes de Boko Haram, selon les autorités nigérianes. Selon les Nations Unies, plus de 1,5 million de personnes ont été déplacées par le conflit qui a fait plus de 13 000 morts depuis 6 ans.
Au Burundi, le président sortant Pierre Nkurunziza est prié de ne pas se représenter pour un troisième mandat. Plus d'un millier de personnes ont manifesté aujourd'hui pour l'en dissuader. La manifestation a viré à l'affrontement. Bilan, 2 morts parmi les policiers et une dizaine d'arrestations. C'est ce que nous dit Idriss Fall.
Environ un millier de militants de l'opposition ont tenté de se rassembler dans le centre de Bujumbura. Pour le directeur adjoint de la police, Godfrey Bizimana, ses opposants n'avaient aucune autorisation. La police anti-émeute a donc utilisé des grenades lacrymogènes, des canons à eau. Les manifestants ont répondu par des jets de pierre, entraînant une paralysie dans le centre-ville. 5 partis d'opposition et des dissidents du parti au pouvoir ont lancé mercredi une campagne pour empêcher le président sortant, Pierre Nkurunziza, de se représenter. Monsieur Nkurunziza n'a pas dit clairement ses intentions, mais un congrès de son parti, le CNDD-FDD, est prévu d'ici fin avril pour désigner son candidat à la présidentielle. Selon le HCR, rien que ces 2 dernières semaines, plus de 8000 Burundais ont fui le pays à cause de la montée de tensions avant les législatives en mai et l'élection présidentielle en juin prochain.
Dans l'est de la République démocratique du Congo, les ressources naturelles alimentent les conflits chroniques. Telles sont les conclusions d'un rapport de l'ONU publié aujourd'hui par le programme de l'environnement. Les milliards de dollars tirés des trafics d'ivoire, d'or et de bois financent des dizaines de groupes armés. Des activités qui leur rapportaient jusqu'à 1,3 milliard de dollars chaque année, estime le PNU. Autre zone de tension, l'Afrique du Sud. Plus de 5000 étrangers ont été déplacés par les violences xénophobes qui secouent le pays depuis 3 semaines. Chiffre avancé par le HCR. Les violences ont fait 6 morts et plusieurs blessés. Compte rendu de la situation avec Michel Joseph.
Johannesburg, aujourd'hui la tension est à son comble. Des Nigérians se sont armés de machettes pour protéger leur commerce. Plusieurs de leurs magasins ont été réduits en cendres par des Sud-Africains ces derniers jours.
Ils nous détestent. Ils nous détestent trop. Nous n'avons pas pris leur travail. Nous ne leur avons rien pris. Nous ignorons pourquoi ils nous en veulent à ce point.
Tout a commencé quand roi Zulu King Goodwill Zwelithini s'est adressé aux migrants en leur disant « Prenez vos sacs et allez-vous-en ». Le chômage rampant et la pauvreté, les Zoulous accusent les immigrés de voler leur gagne-pain. Le nombre des migrants africains dans le pays dépasse probablement largement les 2 millions. Et c'est à Durban que les violences ont fait le plus de victimes. Le gouvernement tente tant bien que mal de contenir la situation. Le président Zuma appelle au calme.
Aucun niveau de frustration ou de colère ne peut justifier des attaques contre les ressortissants étrangers et le pillage de leur commerce.
En 2008, lors des pires émeutes xénophobes d'Afrique du Sud, il y avait eu 62 morts, dont une vingtaine de Sud-Africains pris dans les violences et des dizaines de milliers de déplacés.
Sachez aussi qu'en représailles aux violents xénophobes en Afrique du Sud, plus de 200 manifestants mozambicains ont brièvement bloqué un poste frontière entre le Mozambique et l'Afrique du Sud. Nos frères en Afrique du Sud se font tuer injustement. Nous exigeons que les Sud-Africains n'entrent pas au Mozambique et que ceux qui sont entrés s'en aillent, a expliqué un manifestant à l'AFP. Immigration toujours, 15 immigrés à peine débarqués en Sicile ont été arrêtés hier par des carabiniers. Ils sont accusés d'homicide. Selon les témoignages des passagers de cette nouvelle odyssée, ils auraient jeté à la mer 12 de leurs compagnons d'infortune à la suite d'une dispute survenue à bord. Les agresseurs sont de confession musulmane. Leurs victimes étaient de foi chrétienne venues du Ghana et du Niger. Lutte contre l'Ebola. En visite à Washington, les présidents de la Guinée, du Libéria et de la Sierra Leone demandent un plan Marshall s'élevant à 8 milliards de dollars pour éradiquer la maladie et relancer leurs économies. L'électricité en Afrique, au cœur d'une rencontre aujourd'hui à Paris. Une trentaine de maires d'Afrique francophone demandent à la communauté internationale de lancer un vaste programme d'électrification du continent. Ils appellent notamment les acteurs publics et privés à investir massivement dans ce secteur en privilégiant les énergies renouvelables. L'idée serait de créer une agence intergouvernementale africaine dirigée par des Africains pour gérer ses financements et piloter les projets.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Dans le reste du monde, l'ONU a exigé aujourd'hui un cessez-le-feu au Yémen. Les combats entre partisans et adversaires du président Abdrabo Mansour Hadi et une campagne aérienne arabe contre la rébellion ont fait des centaines de morts dans le pays et provoqué une grave crise humanitaire en près d'un mois. Félix Yepassi Zembro.
Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a appelé à une trêve immédiate dans le pays en feu. Alors que de nouvelles violences ont fait aujourd'hui au moins 36 morts dans le sud du Yémen où se concentrent les combats. Aidés des militaires restés fidèles à l'ex-président Ali Abdallah Saleh, les rebelles chiites houthis liés à l'Iran poursuivaient vendredi leur offensive dans cette région après s'être emparés de la capitale Sana'a et de plusieurs provinces du nord, du centre et de l'ouest du pays. Pour tenter de stopper leur progression et de les empêcher de prendre le pouvoir dans le pays, une coalition arabe menée par l'Arabie saoudite, alliée du président yéménite Abdrabo Mansour Hadi, bombarde quotidiennement leur position par les airs depuis le 26 mars. Face à ce drame humanitaire, Ban Ki-moon a souligné qu'il est grand temps de soutenir l'idée de couloirs permettant le passage de l'aide qui sauve des vies et de passer à la paix véritable. Le chaos dans le pays a profité à Al-Qaïda qui s'est emparé jeudi de l'aéroport de Mukalla, chef-lieu de la province du Hadramout dans le sud-est où des tribus infiltrées d'insurgés islamistes ont de leur côté pris le contrôle d'un terminal pétrolier.
À noter que le président américain Barack Obama prévoit une réunion avec 6 chefs d'État du Golfe, le Bahreïn, le Koweït, Oman, le Qatar, l'Arabie Saoudite et les Émirats. Au menu des discussions, le nucléaire en Iran et le conflit au Yémen, en Irak et en Syrie. Du nouveau en Libye, les délégations des deux parlements rivaux ont remis à l'ONU leurs remarques sur un projet d'accord devant aboutir à un gouvernement d'union nationale. Les pourparlers doivent se poursuivre sur cette base aujourd'hui au Maroc. Ezzat Ibrahim Adouri, ancien collaborateur de Saddam Hussein, serait mort dans une opération militaire dans la province de Salah ed-Din. Âgé de 73 ans, Al-Douri, numéro 2 sous le régime bassiste, était en cavale depuis le renversement de Saddam. L'annonce de la mort a été faite par le gouverneur de la province de Salah ed-Din. Et au Proche-Orient, des heurts ont opposé aujourd'hui des manifestants palestiniens à des soldats israéliens dans le nord de la Cisjordanie, occupé alors que les Palestiniens marquent la journée annuelle des prisonniers. Voilà pour ce journal. Au micro, Morgane Guiriec et je laisse ma place à Claire Morin-Gibourg. Ça sera donc Sahel Plus.
Soyez au cœur de l'info.